podcast de Radio Vatican.
Le président chinois vient de présenter à 29 chefs d'État et de gouvernement un projet pour le siècle à venir et qui sera bénéfique, dit-il, pour le monde entier. Et c'était lors d'un forum sur les nouvelles routes de la soie qui s'est achevé à Pékin. Il s'est tenu les 14 et 15 mai derniers. Le président Xi Jinping projette depuis son arrivée au pouvoir en 2013 de faire renaître ainsi les grandes routes commerciales d'antan avec un programme surnommé One Belt, One Road. À coût de dizaines de milliards d'euros d'investissement, l'idée est de construire tout le long de cette ceinture reliant la Chine à l'Europe et de cette route qui ira jusqu'en Afrique, d'établir en passant des accords commerciaux gagnant-gagnant avec les pays d'accueil. La Chine espère ainsi faire croître son influence et faire redémarrer sa croissance. Joël Ruet est économiste au CNRS, chercheur au Centre d'économie de Paris Nord et préside le collectif The Bridge Tank. Il revient sur l'enjeu de ce projet.
Le gouvernement chinois, depuis une dizaine d'années, a compris le besoin de déplacer son économie de deux manières. D'abord, en interne de la Chine, des zones côtières qui ont été très exportatrices pendant des décennies vers les provinces plus centrales, à l'ouest du pays, au nord du pays également et au sud-ouest du pays, qui ont moins connu le grand boom des investissements, le grand boom de l'exportation. Donc un premier recentrage, réhomogénéisation de l'économie chinoise nationale, et puis deuxièmement, accompagner les entreprises chinoises à l'étranger qui se sont beaucoup internationalisées, qui avaient des velléités un petit peu d'indépendance. Et donc, la manière dont le gouvernement chinois a résolu la coordination de ces deux éléments, c'est de créer une grande vision géographique, de créer un continuum entre les zones côtières, historiquement développées, les zones, les provinces intérieures vers l'ouest, et puis donc tous les pays à l'ouest de la Chine, à l'extérieur, et donc de créer un continuum, des corridors, pour, j'allais dire, coordonner de front ces deux politiques d'investissement et de rééquilibrage.
Ces investissements dont vous parlez, c'est quand même avant tout commencer par construire des routes, des barrages, des ponts, etc.
Exactement, du chemin de fer aussi. Vous savez que la Chine a été, en 5 ans, s'est dotée du réseau de chemin de fer à haute vitesse le plus long du monde. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça n'était pas prévu par aucun des plans quinquennaux, ça s'est fait par volonté politique. Donc vous allez avoir de la modernisation des chemins de fer des pays alentours, vous allez avoir du bâtiment, de la logistique, donc tout ça, ce sont des débouchés pour les entreprises en termes de services, mais aussi pour les industries chinoises, le ciment, l'acier, dont on sait qu'il y avait un ralentissement annoncé et avéré depuis quelques années. Il y a eu certes un stimulus de relance au moment de la crise de 2008, mais ces secteurs-là n'ont jamais repris complètement. Donc voilà un débouché pour ces secteurs dans les pays limitrophes et puis de proche en proche autour de la Chine.
Est-ce que là l'objectif c'est de faire repartir sa croissance ou d'étendre son influence ?
Ce sont les deux. Les relais de croissance dans la Chine côtière se sont essoufflés depuis bientôt 10 ans. Il y avait des signes avant-coureurs et depuis 5 ans c'est avéré. Donc dans la Chine côtière, il y a une volonté de modernisation d'économie, de passer vers des relais de croissance comme l'innovation, les hautes technologies, mais c'est un relais de croissance qui n'est pas du tout applicable à l'ensemble du territoire. Donc pour l'ensemble du territoire, de connecter des provinces qui étaient éloignées des côtes, de les connecter à leur voisinage immédiat, donc par exemple pour le sud-ouest de la Chine, de le connecter mieux à l'Asie du Sud-Est, pour toute la partie ouest et nord-ouest, de mieux la connecter à l'Asie centrale, ce sont en effet des débouchés. Donc il y a un premier facteur qui est un facteur manifeste de croissance. Deuxième facteur qui est le facteur géographique, en effet, aller chercher de nouveaux débouchés dans ces pays-là, une dimension géostratégique, de renforcer les liens. Vous savez que la Chine avait lancé le club de coopération de Shanghai, qui est un club de coopération entre pays au niveau de l'Asie centrale. Eh bien, au-delà de la coopération géostratégique, au-delà de première prise de position dans des mines, par exemple d'uranium et de fer et de cuivre, il y a déjà une dizaine d'années, eh bien aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller plus vite en termes de coopération géostratégique. Et on pourrait citer d'autres exemples sur l'Asie du Sud-Est également.
Pour prendre un exemple, l'Éthiopie s'est félicitée récemment de l'arrivée beaucoup plus rapide, en 10 jours et pas 2 mois, de voitures construites en Chine grâce à ce fameux train de Djibouti Addis Abeba. La Chine dit que c'est des accords de coopération gagnant-gagnant. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Alors, vous citez l'exemple de Djibouti et de l'Éthiopie. Alors là, en effet, si on prend une map monde, on est quand même très loin de la Chine. On est sur une toute autre partie de la planète et on est en tous les cas pas du tout sur les routes historiques de la soie. Donc là, on fait face à une extension du concept de nouvelle route de la soie La Chine étant relativement satisfaite du programme mise en cohérence de sa transformation intérieure et transformation extérieure sur la zone eurasiatique, a décidé d'étendre ce label à des investissements dans d'autres régions qui avaient déjà été faits précédemment. C'est-à-dire que l'exemple du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, qui a en effet été construit par les Chinois, ce chemin de fer avait été décidé avant et indépendamment de la politique One Belt, One Road. Donc il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il s'agit d'une rétro-appropriation, qu'il s'agit d'un enjeu de communication. Communication d'autant plus efficace qu'en effet, ce genre d'investissement est porteur et les temps de livraison ont été raccourcis. De la même manière, vous avez aujourd'hui des trains qui partent directement de Chine et qui arrivent jusqu'à Londres sans faire de transbordement, donc les temps de livraison ont été raccourcis. Alors, il faut bien nuancer en revanche ce facteur. Si vous voulez, en termes de volume, ça représente aujourd'hui encore une part relativement faible par rapport au commerce traditionnel maritime. Mais vous avez aujourd'hui des exemples, y compris en Afrique, en effet, où le fret et la logistique terrestre est accélérée par les investissements chinois.
La Chine assure que ces contrats qui vont être passés vont être des contrats gagnants-gagnants entre Pékin et les pays d'accueil. Est-ce que ce sera véritablement le cas ?
C'est une question qu'il faut en effet absolument se poser, d'autant que les férus d'histoire parmi nos auditeurs savent qu'une partie de la colonisation, il y a un siècle, s'est faite par la stratégie qu'on appelait de la banque et du chemin de fer. C'est-à-dire que vous aviez des pays qui voulaient se moderniser, en particulier en Afrique du Nord, également en Asie, en Iran, des pays qui comprenaient qu'il fallait se moderniser en particulier par le chemin de fer, mais c'était des investissements très coûteux, très importants, donc ces pays s'endettaient. Et quand ils n'ont pas su répondre à leurs dettes, ils ont été mis sous tutelle, sous protectorat, etc. Donc c'est un vrai enjeu. Je crois qu'aujourd'hui les choses sont différentes pour une raison, c'est qu'aujourd'hui le capital ne manque pas. Aujourd'hui la Chine a un problème du fait de ses excédents de capitaux. La Chine a un souci qui est de réinvestir ses capitaux. Donc bien sûr elle prend des positions, bien sûr géostratégiquement ça accroît son emprise, mais j'allais dire l'enjeu est plus en termes de compétition par rapport aux autres grandes puissances. Si vous voulez, ça se fait aux dépens des États-Unis, ça se fait aux dépens de l'Europe d'une certaine manière, en tout cas de l'Europe de l'Ouest. Ça se fait en dépend de la Banque mondiale, par exemple, ou du FMI. Donc il y a un rééquilibrage géostratégique. Mais du point de vue des pays d'accueil, je crois qu'ils bénéficient largement du problème chinois qui était de placer ces investissements. Il n'y aurait pas eu d'autres investisseurs. Donc je crois qu'il y a quand même malgré tout des infrastructures qui vont être là pour durer, qui vont être notables. Donc il y a un gain, oui, pour les pays d'accueil. Si vous comparez ces investissements à la vague précédente des investissements chinois dans les matières premières, par exemple, où il y avait eu ces programmes de matières premières contre infrastructures, avec des contrats léonins parfois dans un certain nombre de pays, en particulier en Afrique centrale, aujourd'hui les contrats sont beaucoup plus équilibrés, on va dire. On n'est peut-être pas encore complètement win-win, parce qu'il y a des rapports de force, mais c'est beaucoup plus équilibré que les relations, serait-ce qu'il y a 5 ans ou 10 ans.
En tout cas, on a vraiment l'impression d'un rééquilibrage avec un Xi Jinping protecteur du libre-échange commercial et face à lui, un Donald Trump, président américain, beaucoup plus protectionniste.
Au-delà des positions et de la rhétorique, je crois que l'ensemble des grands pays de la planète se rend compte d'une chose, c'est que la mondialisation est allée très loin et très rapidement via l'utilisation des échanges commerciaux, donc via le commerce, pour faire simple, et qu'aujourd'hui, le commerce ne peut pas croître indéfiniment. Bon. Donc vous avez aujourd'hui un ralentissement de la croissance du commerce, et donc tout le monde se pose la question de savoir quels vont être les prochains relais de la mondialisation. Il y a beaucoup de réflexions d'ailleurs au sein du G20, et les Chinois, comme d'autres pays, sont relativement avancés dans la réflexion pour considérer que l'investissement va prendre le relais du commerce. Aujourd'hui, pour le commerce, vous avez des problèmes d'emploi, on le voit très bien en Europe. De ce point de vue-là, Donald Trump est peut-être annonciateur aussi d'une tendance de fond. Donc la question, c'est de préparer le relais suivant et de savoir comment l'intégration des économies va continuer, si ça ne peut plus être par une croissance extravertie du commerce. Et la question de favoriser les investissements est extrêmement importante. Et ce qui est très important aujourd'hui, alors la Chine communique peut-être un peu moins sur ce point, mais la Chine travaille également à ce que sur les normes internationales, les standards internationaux d'encadrement d'investissement, elle ait son mot à dire, elle ait son influence.
Donc un remodelage de la mondialisation par les investissements, est-ce qu'il y a d'autres perspectives qui sont ouvertes ou sur lesquelles la Chine mise ?
Il y a deux piliers aux investissements en réalité. Vous avez les investissements dans les projets physiques et puis vous avez les prises de position au sein du système financier international. Alors, sur les projets physiques, vous avez le One Belt, One Road qui est j'allais dire, un vecteur pour mettre en place des projets. Donc ce n'est pas uniquement des trains qui transportent des marchandises, mais vous avez eu énormément d'investissements chinois, d'abord à la faveur de la crise en Europe du Sud, ensuite et de manière beaucoup plus structurée et intégrée dans le One Belt One Road en Europe centrale et de l'Est, et bien sûr des investissements en Afrique et en Asie du Sud-Est. Mais vous avez aussi toute la partie accompagnement de projets. Alors vous avez la Banque Asiatique qui a été lancée il y a quelques années par la Chine, qui vient d'augmenter le nombre de pays sociétaires. On en est aujourd'hui à 77 pays qui contribuent à cette banque pour accompagner des projets, des financements de projets. Et l'étape qui est visée, bien sûr, c'est de contribuer aussi au remodelage du système financier avec une entrée du yuan dans les droits de tirage spéciaux du FMI comme première étape et sans doute une réflexion sur des prochaines étapes de remodelage du système financier. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que la Chine a une vision très intégratrice. Elle arrive à garder un cap à peu près sur l'ensemble de ses politiques et qui a des politiques économiques intérieures, économiques extérieures, d'investissement dans des projets et de restructuration financière. La Chine réussit ce tour de force aujourd'hui d'arriver à avancer de manière relativement cohérente sur l'ensemble de ces trois ou quatre fronts.
Comment réagissent les Occidentaux, évidemment à commencer par l'Union européenne qui est directement concernée par ce One Road, One Belt?
L'Union européenne est très attentive au One Belt, One Road puisque, et là il y a une espèce de petit rapport de force qui s'installe, ce que la Chine essaie de faire auprès des pays membres de l'Union européenne, c'est d'avoir des négociations bilatérales sur le One Belt, One Road, de considérer qu'il s'agit de programmes d'investissement, il faut le discuter projet à projet et pays par pays. L'Union européenne a tendance à considérer qu'il s'agit en réalité d'une politique beaucoup plus établie, ce qui est le cas, et je pense que l'Union européenne a raison sur ce point, et que donc il faut discuter les choses beaucoup plus dans leur globalité que de discuter point à point. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément sur l'Union européenne, il y a des débats, des réflexions au sein de l'Union européenne. Il n'y a pas encore de position commune sur l'enjeu d'être attentif à ce qu'il y ait des réciprocités et à ce qu'un certain nombre d'entreprises européennes soient plus associées à ce type de projet. De négociations un petit peu plus fermes et plus structurées au niveau de l'Union européenne face à la Chine sur ce point.
Et qu'en est-il du géant indien qui se trouve évidemment beaucoup plus près de la Chine que l'Union européenne?
Vous savez que l'Inde, depuis quelques années, a eu des allers-retours en termes de position sur les investissements chinois. D'un certain point de vue, elle en a besoin pour maintenir sa croissance, qui est aujourd'hui la plus forte du monde. Pour un certain nombre de ces États indiens, en particulier les États du Nord et du Nord-Est, les corridors de commerce avec la Chine sont évidemment extrêmement importantes. Mais de l'autre point de vue, il y a un certain protectionnisme de plusieurs grands groupes indiens. Et enfin, l'inquiétude, en tout cas une attention portée sur certains secteurs stratégiques comme les télécommunications, l'attention portée par le gouvernement face aux entreprises chinoises. Et je crois que l'Inde n'a pas réussi aujourd'hui à trouver son modus vivendi face à la Chine. Donc là, l'Inde observe les avancées chinoises, essaye de se positionner, il y a un gros effort fait en particulier vers l'Afrique. L'Inde, le nouveau gouvernement indien, a relancé en 2015 une tradition ancienne de dialogue Inde-Afrique. Mais la réalité n'est faite, et si vous regardez les chiffres, c'est assez lent par rapport aux avancées chinoises. Donc l'Inde a du mal à se positionner, l'Europe cherche à se positionner. Quant à l'Afrique, je crois que l'Afrique aujourd'hui regarde tout ça d'un œil beaucoup plus bienveillant qu'un certain nombre d'observateurs occidentaux ne le disent, puisque du point de vue des Africains, cette nouvelle phase de contrat, cette nouvelle phase d'investissement est moins léonine que la phase précédente, est plus équilibrée, et prise dans un ensemble plus cohérent ou en tout cas sur lesquels les autorités chinoises communiquent mieux. Donc il y a une meilleure réception, je dirais, en Afrique.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.